Terre.
Question ce matin sur la situation en Égypte, déstabilisée l'Égypte par ce dernier attentat qui a fait plus de 235 morts, probablement l'attentat le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Égypte. Bonjour Agnès Levallois.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranée et Moyen-Orient. Alors, ce n'est pas la première attaque, loin de là, la première attaque islamiste, loin de là, en Égypte, mais jusqu'ici, la violence était surtout concentrée sur des points de contrôle des policiers ou contre les chrétiens coptes. Qu'est-ce qui a changé hier avec ce massacre ?
Il me semble que la stratégie du groupe qui a commis cet attentat, puisque rappelons-le, il n'a pas encore été revendiqué. Donc il faut être prudent dans la revendication, même s'il y a un faisceau d'indications qui permettent de penser ou d'identifier un groupe qui serait responsable de cet attentat. On voit bien qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui de s'attaquer à tous les segments de la population égyptienne. Et comme vous l'avez rappelé, il s'agit plus simplement de s'adresser ou de viser les forces de police, les forces de sécurité, ce qui était vraiment la première cible des groupes islamistes avec les coptes. Maintenant, il s'agit de dire à tout Égyptien que le groupe radical et terroriste est en mesure d'organiser des attentats et de déstabiliser l'Égypte. Il y a vraiment une volonté, me semble-t-il, là, d'adresser un signal très clair au président Sissi.
Pour poser le jalon une fois pour toutes, cette attaque, ce massacre porte la marque de la branche égyptienne du groupe État islamique ?
Oui, quand on voit la façon dont les choses se sont déroulées, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à cette organisation qui aujourd'hui est quand même fortement déstabilisée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur son territoire initial, à savoir l'Irak et la Syrie. On sait que c'est un groupe qui s'est beaucoup implanté en Libye. Il y a déjà eu des liaisons, si je puis dire, entre les éléments qui étaient en Libye et qui sont allés en Égypte. Et donc là, c'est vrai que c'était une crainte des services de sécurité égyptiens depuis déjà quelques temps, de savoir comment la jonction allait se faire entre la Libye et l'Égypte. Il y a eu un attentat il y a quelques semaines en Égypte qui a été revendiqué par un groupe Ansar Islam qui venait de Derna en Libye. Et donc, cet premier attentat, il y a peu de temps, avait déjà inquiété les services de sécurité égyptiens à se dire que la jonction pouvait se faire, du coup, avec le Sinaï, qui est une zone qui, traditionnellement, si je puis dire, est une zone qui échappe au contrôle du pouvoir central du Caire.
On va en parler de ce contrôle. Juste d'un point de vue géographique, le Nord Sinaï, donc avec des frontières poreuses également avec Gaza, et ça en fait aussi une poudrière.
Oui, alors ce sont deux choses différentes. C'est vrai qu'il y a la question palestinienne et la question de la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, mais c'est vrai que c'est une zone du coup qui se trouve vraiment coincée entre la partie du Caire, si je puis dire, et puis de l'autre côté, la bande de Gaza.
Et aussi
c'est
entre l'Afrique et le Proche-Orient.
Entre l'Afrique et le Proche-Orient, qui est vraiment une zone de passage, une zone tampon, une zone qui a été de tout temps, une zone qui a vraiment eu une histoire particulière au sein de la nation égyptienne et qui en fait une zone qui échappe en partie justement au contrôle de cet état central du Caire, qui est un état fort ou qui se veut fort, mais là on voit bien que ça lui échappe complètement et qu'il n'arrive pas surtout, c'est ça qui est très troublant, il n'arrive pas à prendre le contrôle ou à éviter ce genre d'attentat, parce que ça n'est pas le premier. Il y a eu l'attentat de Sharm el-Sheikh, de cet avion russe, il y a 2 ans maintenant, oui, qui a été un des plus aussi meurtriers, un peu moins que celui-ci. Et donc on voit bien que cette zone quand même recèle un certain nombre d'éléments de déstabilisation fort.
Alors quelles sont les forces en présence dans ce Sinaï et particulièrement dans ce Nord Sinaï ?
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la population du Sinaï est une population majoritairement composée de bédouins qui ont toujours été très méfiants à l'égard du pouvoir central du Caire, estimant que celui-ci ne donnait pas des moyens suffisants au développement de cette zone. Alors il y a la partie sud du Sinaï qui, elle, a été développée avec des projets touristiques importants, puisque c'est là où vont les touristes occidentaux, russes, et je pense à Sharm el-Sheikh, au tabac, donc, et les touristes israéliens à l'époque, parce que la péninsule du Sinaï avait été conquise en 67 par Israël et rendue à l'Égypte en 1982, donc à partir de là, il y a eu des plans de développement touristique dans le sud. Mais le nord a été beaucoup moins concerné par ces plans de développement, et il y a donc une population locale qui est assez méfiante à l'égard du Caire, et c'est moins que le Caire ne fait pas grand-chose pour l'aider. Et il semblerait que ces derniers temps, il y ait certains responsables de tribus bédouines du Sinaï qui aient accepté de travailler avec le Caire pour essayer justement de régler la question sécuritaire, parce que jusque-là, les services de sécurité égyptiens se heurtaient au fait que la population locale ne voulait pas collaborer avec les forces de sécurité sécurité parce qu'il y avait un manque de confiance totale vis-à-vis de celle-ci.
Donc il faut être vigilant sur les Bédouins parce qu'il y a les Bédouins maintenant qui vont soutenir pratiquement la politique de Al-Sisi et d'autres qui vont être plutôt du côté État voilà. islamique. C'est un peu confus. Entre les Bédouins, entre les groupes islamiques, entre les trafiquants d'armes également, est-ce qu'il Absolument. Y a des connexions entre eux pour déstabiliser l'Égypte ?
Mais bien sûr, parce qu'on sait bien que tout groupe radical, tout groupe terroriste, de toute façon, a des liens très forts avec la mafia, parce que avec des réseaux de contrebande, parce qu'il leur faut de l'argent, il leur faut trouver de l'armement. Et donc là, il n'y a pas que la question idéologique d'un groupe islamiste radical qui veut déstabiliser, mais il y a aussi des connexions à un moment donné avec ceux qui tiennent la contrebande du Sinaï, parce que c'est une zone, comme on vient de l'expliquer, assez vide, où le pouvoir, en tous les cas, n'arrive pas à contrôler. Donc c'est évident que c'est une zone aussi au sein de laquelle la contrebande se répand. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, entre la côté la bande de Gaza et d'autre côté le reste du pays.
Il y a la frontière libyenne à l'extrême ouest et puis tout proche, il y a notamment Gaza. Il y a même des tunnels entre Sinaï et Gaza.
Alors ils ont été sérieusement quand même fermés ces tunnels puisqu'il y a eu une coopération très forte entre l'Égypte et Israël pour justement limiter le passage de la contrebande par ces tunnels qui à un moment étaient un peu le poumon, l'oxygène de Gaza qui était complètement qui était encerclé, si je puis en tout cas,
une enclave.
Oui. Et donc là, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a une forte coopération entre les Égyptiens et les Palestiniens pour éviter tous ces trafics et limiter le plus possible la déstabilisation du Sinaï qui pouvait aussi venir par ce canal.
Pour comprendre qu'il est difficile de contrôler cette région, il faut parler de son immensité. Hein. C'est 6 fois le Liban, je crois, en taille. Et quand Al-Sisi, le président Abdel Fattah Al-Sisi, dit qu'il contrôle cette zone, en fait...
Non, il ne la contrôle pas. Et c'est vrai que ce énième attentat est aussi la démonstration de l'incapacité du président Sisi aujourd'hui ou de la grande difficulté de celui-ci à pouvoir assurer la sécurité du territoire. Comme vous l'avez dit, c'est un énorme territoire, l'Égypte. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème parce que Sisi a été élu sur 2 mots d'ordre. Hein. C'était le retour de la sécurité et la reprise économique. Et on voit bien qu'avec la multiplication des attentats, évidemment, la sécurité n'est pas acquise et l'économie a le plus grand mal à redémarrer parce que les investisseurs et les touristes, évidemment, n'ont aucune envie d'aller dans ce pays en raison de ces attentats. Donc c'est dramatique aussi en termes politiques pour Sisi.
Et quand le président égyptien a parlé hier de réponses brutales, en a-t-il les moyens ?
D'un point de vue militaire, il a des moyens, puisque vous savez qu'il achète beaucoup d'armements.
Posez ma question autrement, est-ce que les moyens sont adaptés à la guerre au
Non, il me semble que les moyens ne sont pas adaptés et que ça n'est pas simplement en bombardant qu'on va régler la question du Sinaï, qui est une question sécuritaire, mais qui est une question aussi de développement, qui est une question de confiance entre la population du Sinaï et le pouvoir central, et que ça, ce n'est absolument pas l'utilisation de la force qui va permettre de régler ces questions.
Agnès Levallois, on va reprendre cette interview après la revue de presse de Frédéric Pommier dans quelques secondes. Nous serons rejoints à 8h40 par la journaliste, grand reporter à France Inter, Claude Guibal, qui a été 15 ans correspondante dans cette Égypte, qu'elle a donc longuement pratiquée et étudiée. Vos questions donc ce matin à nos deux invités, Agnès Levallois et Claude Guibal, c'est au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. À tout de suite.